le nouveau est dans le passé. Ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
Les musulmans ordinaires en Europe.
On a une religion autour de laquelle il y a pas mal de clichés, mais nous, on ne se focalise pas là-dessus. On montre simplement des gens et des choses tout à fait ordinaires. La seule chose qui les différencie, c'est que les uns croient à Allah, les autres en Dieu, et d'autres ne croient à rien du tout.
C'est bien difficile de dire ce qu'est l'islam. On pourrait peut-être soutenir qu'il est ce qu'en font les musulmans. C'est en tout cas vrai en Europe. En même temps que l'islam y devient visible et même surexposé, des musulmans, qu'on pourrait dire ordinaires, intégrés socialement, tentent, génération après génération, d'y concilier leur vécu occidental avec leur foi. Les chrétiens ayant fini, jusqu'à preuve du contraire, par se conformer à la sécularisation dominante, il est attendu de ces musulmans ordinaires qu'ils acceptent pareillement la tolérance et qu'ils se plient aussi à la représentation artistique libre, à la satire, voire à la caricature. Mais ce chemin qui leur est tracé par beaucoup de médias et de politiques n'est pas nécessairement celui qu'ils ont envie de prendre. Beaucoup d'entre eux entendent ne pas être des pions qu'on pourrait déplacer à sa guise sur une ligne tracée d'avance. Au fond, chez eux, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils cherchent à frayer une voie, chacun à sa façon, car il ne faut pas les imaginer monolithiques. Ils acceptent que dans l'islam, beaucoup d'aspects ne soient pas immuables. Ils sont prêts à les transformer. En même temps, ils veulent aussi interroger l'universel tel qu'il est entendu en Occident. Leur tentative de renouveler leur croyance en questionnant aussi l'autre tient de la performance. D'autant que depuis 1989, les affaires bruyantes, les attentats répétés ne cessent de provoquer des déraillements dans cette trajectoire inédite.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Niloufer Gueule, bonjour.
Bonjour.
Turc d'origine, professeur à l'université du Bosphore à Istanbul, et puis maintenant, depuis près de 20 ans, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, puis vous avez aussi beaucoup travaillé aux États-Unis, en Allemagne. Le lieu idéal, la communauté pour vous, je pense, utiliser beaucoup ce mot-là, c'est l'école.
C'est l'école des hautes études, oui. Je me reconnais très bien.
Parce que vous y avez un atelier de tissage de tapis.
Oui, je vois mon approche de sociologue un peu comme ça, comme un tissage, pas collage. Si on fait une comparaison avec le collage, c'est explosif, un collage entre les musulmans et les non-musulmans en Europe. Tandis qu'un tissage, c'est ça que j'essaie de montrer, qu'on peut créer du commun.
Alors avec des étudiants d'un peu partout.
Des étudiants qui viennent un peu de partout, du Moyen-Orient, mais aussi des Français qui s'intéressent au Moyen-Orient ou à l'islam en Europe. Donc effectivement, tous ceux qui sont déjà un peu, je dirais, métissés dans leur approche ou dans leur trajectoire.
Alors avec eux, vous menez de grandes enquêtes collectives. Par exemple, une enquête qui s'intitulait « Euro-public islam » et dont vous rendiez compte peu après les attentats de janvier 2015 dans un livre à la découverte « Musulmans au quotidien ». On va reprendre plutôt le mot « musulman ordinaire ». C'est d'ailleurs le titre d'une conférence que vous donnez à Aubervilliers. L'école des hautes études en sciences sociales va se transférer au campus Condorcet d'Aubervilliers dans quelques temps et dans un lycée d'Aubervilliers. Donc vous parlez des musulmans ordinaires lundi prochain à 18h. Alors, les musulmans ordinaires, ils sont assaillis par différentes affaires, mais il faudrait d'abord les définir, si vous le voulez bien.
Oui, parce que quand on parle des musulmans, on parle souvent des faits, je dirais, durs. Donc, la radicalisation, le djihadisme, les terroristes, ou bien de l'échec. Les musulmans qui ont échoué leur vie scolaire, ou alors ils sont des délinquants, donc les lieux à problème, des quartiers, donc des banlieues, des prisons, des écoles. Donc souvent on parle de l'islam et des musulmans comme un problème ou comme une radicalisation. Moi j'ai voulu aborder le sujet par un angle plus difficile, plus amorphe, je dirais, plus difficile à discerner. Mais au fond, c'est ceux qui sont dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire. Et d'ailleurs, c'est à partir de leur visibilité dans la vie publique que les sociétés européennes aujourd'hui débattent la présence musulmane. Donc, au fond, c'est ceux-là qui sont déjà dans un processus d'intégration dans ces sociétés, mais qui ne sont pas intimidés à mettre en avant aussi leur religiosité dans la cité qui pose problème.
Alors dans la vie ordinaire, tenez, je vous propose d'écouter un extrait d'un film déjà ancien, du millénaire précédent, un film de Damien O'Donnell, un film britannique, en 1999. On est dans une famille de Pakistanais installés en Angleterre, et l'intégration va passer peut-être par une rupture de la transmission traditionnelle entre le père et le fils.
Écoute, papa. On en a tous marre que tu nous dises ce qu'il faut qu'on fasse et comment le faire.
Je préviens, monsieur. J'ai pas élevé toi pour que tu respectes pas moi. Fils pakistanais doit toujours respecter père.
Papa, je suis pas pakistanais. Je suis né ici. Je ne parle pas ourdou.
Fils, tu comprends pas parce que tu écoutes pas. J'essaie de montrer toi bonne façon de vivre. Toi pas anglais, anglais jamais accepté toi. Dans l'islam, tout le monde égal. Homme blanc, homme noir, tous pareils. Tous musulmans. Sa bonne communauté.
Les musulmans traditionnels, un peu petit nègre dans le doublage. Mais peu importe, on n'est pas au Pakistan, dit le fils, on n'est pas dans un pays islamique, je suis anglais, va-t-il ajouter, et sans doute désireux de l'être.
Voilà, c'est déjà, on est dans une phase de post-migration. On ne peut plus faire une sociologie de migration, parce qu'on parlait de la déterritorialisation. Maintenant, là, il faut parler de re-territorialisation des migrants, et c'est l'étape de leur citoyenneté qui est aujourd'hui... débattu, parce que les migrants, c'était les travailleurs, est toujours attachés à leur pays d'origine, tandis que la deuxième génération, troisième génération, se sentent déjà appartenir à ce territoire.
Mais entrant dans le monde démocratique, ils entrent dans le monde de l'incertitude, c'est la définition de la démocratie. Et puis, la démocratie est secouée de scandales, de grands débats que vous explorez assez systématiquement avec vos groupes d'enquêteurs, Nilou Ferguellet. Et on va prendre un premier cas, un premier dossier, celui de la prière publique en Italie. Et à Rome en 2011, ici c'est un témoignage.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Per Allah non ci sono distinzioni. Alla premia chi si sottomette, chi prega il suo nome. Islam non conosce le donne. Non conosce le donne.
Piazza Venezia devant le monument national, c'est une grande. Pâté fasciste à Victor Emmanuel II dans le centre de Rome. Et peu de temps avant, en 2009, à Bologne, une manifestation en défense de Gaza se terminant à la tombée du jour. Certains participants, qui pouvaient d'ailleurs avoir apporté leur tapis de prière, décident d'achever la manifestation par une prière collective et on est, semble-t-il, sur le parvis de la cathédrale, le grand monument de Bologne. Alors, Nilou Ferguellet, ni une ni deux, avec son commando, elle se pose à Bologne et elle constitue, il faut que vous nous racontiez votre méthode, oui, un espace public d'expérimentation, une sorte de petit théâtre de débat.
Oui, c'est comme un théâtre de l'opprimé de...
Augusto Boal.
Voilà, exactement, dans les années 60 au Brésil, parce que lui, il voulait faire un théâtre d'essai, pas de théâtre de spectacle. Et on est dans une société de spectacle. Je suis donc, c'est le point de départ. Quand on parle de l'espace public, la vie publique, on pense tout de suite aux médias. C'est-à-dire les débats publics, on pense plus entre les gens, vrais gens, dans un lieu, mais on pense aux médias. Donc déjà, je voulais aller dans des lieux où ces controverses apparaissent avec des vrais gens. Donc, à partir de cette controverse sur la prière publique, donc je me suis dit, on va aller à Bologne, une ville en plus connue par son passé communiste. Donc, je ne m'attendais pas quand même à me retrouver au milieu des polémiques très intenses, très fracturées.
Vous constituez un espace public, un groupe de parole, et dans le groupe de parole, il y a des musulmans, des convertis à l'islam, mais vous mettez aussi trois électeurs de la Ligue du Nord qui, eux, ne vont pas vouloir parler aux musulmans. Enfin, oui. Ils sont là avec eux, mais ils parlent de l'islam, ils ne parlent pas aux musulmans.
Tout à fait. Mais pourquoi on compose le groupe comme ça? Parce que l'idée, c'était pas juste travailler sur les musulmans ordinaires, mais comment eux-mêmes, ils se confrontent avec les non-musulmans autour d'une controverse. Autour d'une controverse, parce qu'une controverse signifie qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués ou concernés, et pas que des musulmans. Donc, ces gens de Ligue du Nord étaient aussi impliqués dans cette controverse autour de la prière collective à Bologne, donc on les a invités. Comme ça, on constitue des groupes. Mais justement, on a vu là une sorte de sabotage même du débat. Il y avait une impossibilité de débattre. Je m'attendais justement à la colère des musulmans. J'ai trouvé au contraire une attitude beaucoup plus calme, patiente. D'ailleurs, la notion de la patience, c'était très important. J'ai découvert ça comme un répertoire d'action pour ces musulmans de Bologne, d'Italie.
La patience, c'est le recours au droit, l'appel au droit.
L'appel au droit, et puis même une sorte de retraite, et pas de confrontation conflictuelle. Bon, une retraite qui peut être aussi comprise comme quelque chose pas tellement positif pour la démocratie, mais en tout cas pas du tout confrontationnel.
À la décharge des électeurs de la Ligue du Nord, il faut dire qu'une autre affaire minait le climat à Bologne, c'était le projet de construction d'une grande mosquée. Ah, les dossiers à travers l'Europe de construction de mosquées avec leurs minarets. La même année 2009 intervient en Suisse, on s'en souvient, un référendum sur l'interdiction des minarets. Vous allez donc vous rendre sur place, comme d'habitude, commando, espace public d'expérimentation. Mais d'abord, si vous le voulez bien, rappel des faits assez clair par un journaliste de France 24.
La population musulmane a augmenté rapidement dans les années 1990, notamment lorsque la Suisse a accueilli une vague de réfugiés fuyant la guerre des Balkans. Et il y a plus de 30 ans, en 1978, le président suisse inaugurait la mosquée de Genève avec son minaret. D'où une certaine surprise ici lorsque l'initiative visant à les interdire a vu le jour.
C'est le symbole pour introduire la loi de l'islam, la charia. Et dans cet ordre de droit, il y a des éléments qui sont tout à fait en contradiction avec les droits de liberté dans notre constitution. Par exemple, l'égalité des hommes et des femmes n'est pas garantie dans la charia.
L'installation en janvier dernier d'un minaret dans la petite commune de Wangen est apparue aux yeux de certains comme une menace aux valeurs et à la culture de la Suisse.
Les Suisses ont peur d'être contraints de changer leur culture. Mais nous ne voulons pas la changer. Nous voulons plutôt que ce soit les musulmans qui acceptent notre culture.
Le minaret de Wangen a finalement été officiellement inauguré en juin, après une longue bataille judiciaire. Selon les fidèles, avoir un minaret n'est pas une provocation ou une manière de s'isoler du reste de la société suisse. C'est une manière, disent-ils, d'être cohérent avec leur religion.
Je pense qu'un minaret est aussi important pour une mosquée qu'un clocher pour une église.
Il existe des lignes de division sur la question, même au sein de la communauté musulmane de Suisse. Tous n'accordent pas au minaret une telle importance.
Lorsque vous cherchez dans les livres, les premiers livres de l'islam, vous ne trouvez pas statut minaret.
Alors justement, votre méthode, nouveau groupe de participation, nouveau dialogue en Suisse, ça consiste, Niloufer Golay, à ne pas privilégier le oui et le non. Et vous allez voir qu'il n'y a pas monolithisme chez les musulmans de votre groupe de parole sur cette question.
Non, parce que effectivement, quand vous créez un groupe, on voit apparaître la pluralité des points de vue. C'est tout l'intérêt de l'espace public. La démocratie, c'est l'émergence de la pluralité des points de vue et pas la polarisation pure et simple entre les pour et les contre. Mais le référendum contre la construction des minarets en Suisse est quand même très symptomatique de ce qui se passe en Europe. D'abord, l'Europe n'est pas juste les membres de l'Union européenne, mais là où, donc, par le prisme de l'islam, on voit une autre cartographie européenne est en train de se faire. Donc la Suisse, qui n'était pas un pays vraiment important pour l'Europe, c'est au contraire en dehors et neutralité, aujourd'hui Et il est entré dans les débats autour de l'islam par donc ce référendum. Et aujourd'hui, on se réfère dans d'autres lieux à ce référendum. Est-ce que les Suisses n'ont pas fait, au fond, ce que les autres pays voulaient ?
Qu'est-ce que soit la tradition nationale, laïcité,
culture
référente en Allemagne, neutralité en Suisse, etc., etc., il y a les mêmes débats. Oui, mais je reviens à ma question de clivage. Oui. Vous apportez beaucoup d'importance à l'esthétique, à la construction des mosquées. Il y a mosquées et mosquées. Enfin, je veux dire, il y a mosquées ostentatoires et il y a mosquées, comment dire, qui cherchent l'intégration au paysage urbain.
Oui, parce qu'on peut dire qu'il y a des mosquées nostalgiques. On va créer une mosquée tout à fait imitation des mosquées de Turquie, du Maroc, de Pakistan. Et puis ça veut dire une mosquée qui ne parle pas avec d'autres habitants de la ville, ou alors il va y avoir une forme de négociation esthétique, c'est très important, une négociation qui veut dire que aussi une sorte de
transparence au fond.
Transparence, c'est une valeur qu'on demande aujourd'hui en Europe parce que à cause des raisons de sécurité, contre la radicalisation, etc. Mais quand on demande à un architecte européen de construire une mosquée, c'est aussi une histoire d'apprentissage, de familiarisation avec la culture de l'autrui. Et je pense qu'on a besoin de cette familiarisation. Et les formes esthétiques, c'est très important. Quand on construit une mosquée qui va prendre quand même compte de l'environnement européen, des attentes des habitants qui ne sont pas que des musulmans, on va finir par créer une forme architecturale qui peut signifier le dépassement de conflits.
Élie Ferriolet, vous ne serez pas étonné, vous la citez d'ailleurs dans votre livre « Les musulmans ordinaires en Europe à la découverte » d'entendre à cet instant précis Diams.
Hé, Diams, fais péter le son là-haut.
J'ai pas envie de grandir quand je vois le montant. Pas envie de mentir, on est mieux chez les mômes. Ouais, à force de vieillir, on finit par être chiant. Alors je veux rajeunir, bienvenue chez Peter Pan. Fais péter les pop-corn, on va se péter le bide. De l'hiver à l'automne, moi je vais péter de rire. Car le monde est moche comme le brushing de Marine. Moche comme le métro de Paris. Faut que je range ma chambre et que je trie mes papiers. Car l'État veut que je paye mes impôts et mes PV. Je les paierai bien en billes, mais eux veulent mon pactole. Les points sur mon permis, je te les vends après l'école. Je n'aime pas l'économie, je n'aime que le PS. Car Tom et Jerry, c'est comme la droite et le PS. C'est la crise, ouais, chez moi y'a plus de Haribo. Papa dit que c'est la faute à Sarko.
Moi je veux pas être grand. Non, 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 non. Car faudrait tout comprendre. Non, 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 non. Moi je veux pas être grand. Non, 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 non. Car je comprends rien pour l'instant.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Et vous, c'est quoi votre petit régal ?
La bolognaise Zaki Halal.
Et vous ?
Paella Zaki Halal.
Et vous ?
Les raviolis Zaki Halal.
Zaki Halal, à chacun son régal.
Zaki Halal.
Avant d'ouvrir le troisième dossier, le marché, l'invention peut-être d'une tradition halal, avec Nilufer Gueulet. Juste un mot sur Diams, ça date un peu, hein, ce morceau, c'est son dernier single, elle parle de Sarko, le temps a passé depuis pour elle.
Oui, elle ne chante plus, c'est justement une des figures emblématiques de ces musulmans ordinaires, parce qu'il y a les convertis parmi les musulmans européens aujourd'hui, et les convertis jouent un rôle très important. Parce que c'est des interfaces entre les deux communautés, les deux codes culturels, et montre aussi son trajectoire, tous les dilemmes aujourd'hui de retourner par rapport aux valeurs normatives de l'islam. Est-ce qu'elle
parce
peut
que
chanter
elle ne chante plus, elle ne se produit plus.
Elle ne produit plus,
elle
est-ce qu'elle peut toujours
livres.
Chanter ? Est-ce que c'est licite ou pas ? Est-ce que c'est permis ou pas de chanter devant un public mixte ? Bon, Cat Stevens, Youssouf Inan, qui avait eu ce cheminement après être converti, mais il revient à la chanson. On attend peut-être que Diams va revenir à la chanson.
Licite interdit, alors ? Licite, permis, halal, interdit, haram.
C'est ça.
Expliquez.
Oui, il y a toute une réglementation des conduites dans l'islam, c'est ça, la normativité islamique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit encore avec les musulmans d'Europe, ils se différencient d'un islam de haram, donc des interdits, et ils cherchent de plus en plus des certificats de halal, c'est-à-dire permis. Permis devient plus important que l'interdit, au fond.
Oui, mais le halal, tel que vous le décrivez, ça devient un style de vie. Autrefois, certains sociologues, peut-être moins sérieux que vous, utilisaient ce mot qui n'était pas sans atout, sociostyle, un sociostyle.
Tout à fait.
Une manière de s'adapter aux tendances.
C'est ça, parce que la question de halal, donc, se réfère davantage aux règles d'alimentation, au régime alimentaire. Donc, manger certains animaux et pas les autres. Mais c'est aussi, donc, un style de vie. Un style de vie, qu'est-ce qu'il faut, comment rester tout à fait pieux dans le cercle halal tout en vivant sa vie en Europe aujourd'hui.
Oui, mais le style de vie, ça va se conjuguer, par exemple, dans le domaine alimentaire, avec d'autres tendances peut-être convergentes, bio, végétariennes, etc.
Tout à fait, c'est de plus en plus, c'est dans les tendances actuelles aujourd'hui. Donc quand vous voulez, on voit les jeunes filles qui cherchent aussi des produits naturels pour les soins de leur peau. Donc tout ce qui est aujourd'hui dans la stylisation de la vie islamique rejoint les tendances tout à fait actuelles. Même on voit dans leur vie intime, les coachs islamiques, le bien-être islamique. Donc on voit justement la convergence. Parce qu'ils vivent en Europe aujourd'hui, ils cherchent à s'accommoder avec les tendances actuelles.
C'est quand même une affaire de marché. Florence Blergeau-Blaclair publie un livre, aux mêmes éditions que vous, La Découverte, sur la tradition fabriquée du halal. Elle dit, c'est pas une affaire de certification par les autorités religieuses comme la cacheroute dans le domaine juif. Ce sont des experts auto-institués, portés par des entreprises capitalistes venant des différents pôles d'attraction du monde musulman et qui décident, je la cite, d'imposer plus qu'une alimentation, des idées. Donc c'est une association, je vais peut-être un peu plus loin qu'elle, entre le marché capitaliste et les idées fondamentalistes, ça va d'ailleurs souvent assez bien ensemble.
Du point de vue des personnes, des usagers, des consommateurs, c'est aussi une manière de se discipliner par rapport à leurs pratiques au quotidien. Donc, c'est pareil aussi aujourd'hui avec tous ces gens-là qui sont très soucieux de leur régime, de la détoxication, etc. Il y a toujours un marché. Il y a toujours un marché qui accompagne aujourd'hui l'émergence des groupes sociaux. Et donc aujourd'hui, l'émergence des musulmans en Europe est accompagnée également avec un marché propre à ce phénomène, mais qui montre déjà que c'est un marché qui est réinventé.
Vous me direz que du côté catholique, on réinvente la boutique Saint-Sulpice, vient d'ouvrir à Marseille, boutique catho, fun et sympa. Alors, vous dites, il y a quand même beaucoup de points communs dans les habitudes alimentaires réinventées entre les juifs et les musulmans. Alors, la présentation qu'on nous fait d'habitude du bloc judéo-chrétien opposé aux pratiques musulmanes, ça mérite d'être revu.
Oui, il y a judéo-chrétien, mais judéo-islamique aussi, parce que ce sont les deux religions qui sont publiques, d'abord, et qui, effectivement, il y a des conduites, des pratiques dans le quotidien qui rythment leur vie. Donc, l'abattage rituel, c'est un exemple. La circoncision des garçons, qui est aussi une controverse en Allemagne, ça en est une autre. Donc, il y a des pratiques qui convergent. Et par ailleurs, halal et kosher, je pense que c'est quand même tout à fait intéressant, parce que la question juive, on a pu débattre comme le droit des minorités religieuses à leur rituel, tandis que la question, quand il s'agit des musulmans, tout de suite, ça devient aujourd'hui un débat de société. C'est ça qui est intéressant, dans ce sens-là, que la question de l'islam aujourd'hui, ça devient une affaire publique, un débat pour tout le monde.
Ce que vous recommandez aussi, Lili Fergueulet, c'est de traiter les choses avec de l'humour. Alors, vous citez un site de Comédie islamique, à part ça, tout va bien. Nous nous y sommes rendus, non sans difficulté. Alors voilà un sketch que vous avez montré à vos espaces publics d'expérimentation. Je crois que c'était à Toulouse. Voici un père. Il fait manger tranquillement sa fille de 3 ans et découvre un paquet de jambon jeté dans la poubelle sans avoir été consommé. C'est sûrement un coup du fils, un jeune adolescent un peu buté et qui est très influencé par les copains musulmans de la rue.
Tu sais ce que c'est ? Du jambon. Tu sais où t'es trouvé? Dans la poubelle. Alors que les choses soient bien claires, hein. Que tu me regardes de travers quand je prends une bière dans le frigo, ok. Que tu changes de chaîne parce qu'une nana montre ses nibards à la télé, passe encore. Que tu viennes faire chier ta mère parce que soi-disant elle met des jupes trop courtes, là ça commence à me gonfler. Mais que tu te mettes à acheter du jambon à la poubelle, là je dis non, ça suffit. Est-ce que tu comprends qu'il faut pas jeter la nourriture à la poubelle? Mais dis quelque chose, bordel de merde!
C'est la haram, le cochon, c'est la haram.
C'est haram, le cochon, c'est haram, mais moi je comprends rien, moi, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, répète! C'est haram! Je vais te dire un truc. C'est moi qui fais la loi chez moi. Est-ce que c'est bien compris? Bon, bah attends, tu dégages, je veux plus te voir. Jeter du jambon à la poubelle!
Oh, viens là, ma chérie. Papa, il s'est énervé, hein? Mais tu sais, c'est pas grave. Ça te dit d'aller faire un tour de manège pour qu'on change les idées?
Inch'Allah.
Inch'Allah, dit la petite fille de 3 ans qui a été gagnée par le phénomène. Attention, c'est un site musulman.
Tout à fait.
Que nous citons ici. Tout ça veut dire qu'on peut traiter les choses
tout à fait,
de manière
de
drôle.
L'humour. C'est drôle, c'est de l'humour, mais on voit encore le thème de l'autorité parentale qui est brisé là. Comme c'était le cas avec le Pakistanais en Angleterre.
Et on revient au thème de la cuisine, du domestique, de la maison.
Et quelque chose de très intime, de la plus proche, donc, parce que c'est justement les habitudes alimentaires qui fait une culture. Donc je pense qu'il faut être très sensible à cet aspect culturel dans l'espace public. On débat toutes ces affaires comme des opinions, comme des questions de l'islam, de la religion, de la différence ultime, de l'altérité. Mais au fond, ça se joue au niveau de la vie quotidienne, donc où on confronte nos différences. La question du porc, la question du petit cochon devient presque une figure publique dans ces confrontations.
Sauf que, Niloufer Gueulet, les débats, les attentats, les événements vont plus vite que ce lent processus, que cette trajectoire d'émancipation ou d'aménagement que cherchent les musulmans ordinaires et que vous décrivez dans votre livre. Il y a aussi, je voudrais introduire les surmusulmans. Oui. C'est Fethi Ben Slama, le psychanalyste d'origine tunisienne, qui utilise ce mot pour dire que pour compenser la pratique de l'humilité, la pratique du retrait, la patience que vous décriviez, certains deviennent des surmusulmans.
Oui, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la fabrication d'un vivre commun, comme on dit facilement, mais c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, les musulmans ordinaires aussi se voient sollicités également par ces attentats violents qui créent une rupture dans la société, une fracture, une blessure très profonde. Et donc, ils sont obligés aussi de se prononcer, de répondre à ça. Parce qu'on ne peut pas rester neutre. Il y a ça. Donc, par rapport à cette sur-musulmane, comme dit Fethi Ben Slama, je pense qu'il faut revenir à ce qui est ordinaire, de ce qui est plus banal. Comme vous dites, c'est plus dans la longue durée. Mais c'était la force de l'Europe jusqu'à maintenant. C'est-à-dire comment on peut surmonter ces différences par la culture, par une réflexion critique, par l'interaction et par la capacité de créer des nouvelles formes de vivre ensemble.
Et ce vivre ensemble, mot ordinaire, ben, ça devient une manière de performance aujourd'hui. Ben, vous expliquerez tout cela à vos auditeurs d'Aubervilliers. C'est lundi à 18h dans un lycée d'Aubervilliers, au campus, dans le cadre du campus Condorcet, puis votre livre aux éditions de la Découverte. Musulman au quotidien. L'émission a été réalisée par Valérie Aestaraï, l'équipe de la Marche de l'Histoire, Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco, à la technique Philippe Duclos.